Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro d'une semaine formidable. Je vous présente rapidement nos consultants invités du soir. Bruno Salvet, bonsoir.
Bonsoir.
Monsieur Rugby, nous sommes également avec Olivier Degnaud, bonsoir.
Bonsoir.
Qu'on est bien content de retrouver après sa petite escapade du côté de l'Inde, oui, avec les handisports, on en dira deux mots à la fin de...
J'ai retrouvé le soleil et l'air pur.
Et l'air pur, surtout l'air pur. Et Eric Figuère, bonjour.
Bonjour, bonsoir. Bonjour à tous.
J'allais dire spécialiste d'un peu tout,
oui,
et passionné de sport.
Ouais, hein. On peut le dire.
On va dire ça comme ça. On va commencer avec Monsieur Rugby, le top 14 qui s'est poursuivi ce week-end. On va rapidement rappeler les résultats avec La Rochelle qui s'est imposée 36-19 sur la pelouse de Lyon, le Racing 92 qui a battu Pau 15-10, le Stade français qui s'est imposé 35-12 sur Montpellier, la large victoire de Clermont 63-14 sur Castres, Montauban qui a battu Perpignan 29-22, l'Union Bordeaux-Bègles qui s'est imposé 41-12 sur Bayonne. Et puis ce matin, dans le choc de cette journée, Toulouse s'est imposé 59-24 sur Toulon. Bruno Salvet, qu'est-ce qu'on retient de cette journée de championnat, au-delà de la victoire de Toulouse qui était importante, après un petit passage à vide?
On peut retenir la victoire de La Rochelle à l'extérieur, ouais, à Lyon. Mm-hmm. Et La Rochelle qui je pense, va commencer à lancer sa saison. Elle a eu du mal au démarrage un peu, cette équipe de La Rochelle. Et puis c'est vrai qu'avec la qualité de l'effectif qu'elle a, elle a mérité beaucoup mieux. Et donc le fait d'aller s'imposer à Lyon, qui avait fait un bon début de saison, mais là ils restent 12e quand même. Mm-hmm. Donc Lyon a vraiment dégringolé au classement. Et je pense que La Rochelle est en train de se lancer. Et donc c'est ce qu'il faut retenir. C'est la seule victoire à l'extérieur. Donc une bonne performance des Rochelais qui lancent vraiment leur saison.
Clermont qui s'impose 63-14 face à Cassé, encore un gros score, j'ai l'impression. Enfin, je fais cette émission à peu près une semaine sur deux, oui, et j'ai le sentiment que tous les 15 jours, on annonce des scores fleuves dans le top 14.
Oui, les Casserets ont vraiment lâché vers la fin, puisque ouais, Clermont, la fin du match, sur les ballons portés notamment, sur des touches, et sur des, ce qu'on appelle des pénales touches, donc des touches qui sont tapés très proches de la ligne adverse. La structuration des molles clermontois ont fait énormément mal aux Castrés, puisqu'ils ont marqué 3 ou 4 essais d'affilée. Mm-hmm. Donc, victoire méritée des clermontois, qui aussi font partie des outsiders de cette année et qui avaient du mal à démarrer la saison. Donc, ils concrétisent cette journée par une belle victoire à la maison. Et c'est bien pour ce club de Clermont.
Mm-hmm. Eric, vous avez suivi cette journée de top 14, bien évidemment.
Oui, bien évidemment, avec une douloureuse défaite de l'USAP.
Oui. Perpignan.
Ça c'est vraiment très, très difficile à accepter, à supporter, mais mm-hmm, c'est la loi du sport, malheureusement. Et puis, quand on voit les classements, alors il y a effectivement des très gros scores, mais ça va un petit peu dans tous les sens. Et puis, quand on voit le classement général, on se rend compte que c'est finalement très serré. Oui. Mais c'est très serré entre les 12 premiers clubs du top 14. Voilà, parce qu'il y a très peu d'écart. 7 mm-hmm, points, c'est vraiment pas grand-chose. Alors, dans ces cas-là, quand c'est très serré sur autant de clubs, ça veut dire que les deux derniers du classement, en l'occurrence, ont peu de points. Mmh. Et là, c'est le cas, donc ça va être très difficile pour eux. Mais c'est très, très intéressant, par contre, devant. Voilà, puisque pour l'instant, tout est à faire.
Vous parliez de Perpignan, on ne va pas enfoncer le clou, mais ils sont derniers du classement avec 0 points. Vous me disiez tout à l'heure en antenne, c'est la première fois depuis que le top 14 est top 14.
C'est-à-dire
qu'ils ne prennent même pas les points de bonus défensifs.
Ça ne joue pas si mal que ça, malheureusement, mais c'était un test là contre Montauban, puisque Montauban était l'avant-dernier, et toujours l'avant-dernier, mais l'était avant ce match. Et donc, il fallait forcément un sursaut, même si le sursaut est attendu pour l'USAP depuis déjà quelques matchs, mais il le fallait à ce moment-là, puisque ce sont les deux dernières équipes. Et Montauban, chez elle, a normalement gagné son match, et l'USAP a malheureusement normalement perdu son match. Mmh. Et quand on regardait justement avec Bruno le programme des semaines à venir, y a rien qui encourage, qui nous donne envie de penser que les choses vont aller mieux.
Mmh. Voilà, bon. Bruno, sur le zéro pointé de Perpignan, comment ça s'explique? Parce qu'Eric dit qu'ils ne jouent pas si mal que ça, mais finalement...
Ils ne sont pas loin, là. Ils perdent contre Montauban 29-22, ouais, donc ils sont à 7 points, et le bonus défensif, il est à moins de 7 points. Mmh. Quoi, donc ils ne sont pas loin. Ouais. Et c'est vrai que la botte de Jérôme Bosviel, le numéro 10, le demi d'ouverture de Montauban, a énormément pesé sur cette rencontre. rencontre, parce que c'est un super buteur, et il a vraiment passé des pénalités qui étaient non seulement longue distance, mais qui étaient aussi très importantes dans ce match. Après, c'est vrai que l'effectif de l'USAP est de qualité, on connaît les qualités aussi de l'entraîneur, de Franck Azéma. Donc je sais qu'il y a déjà certains adjoints qui ont été limogés. Mmh. Excusez du peu, Marty, qui était emblématique joueur et puis entraîneur ensuite chez eux. Donc peut-être que Franck Azéma va peut-être s'en aller et créer peut-être un électrochoc au niveau de cette équipe. Mais il faut pas désespérer. La saison est encore longue. On est qu'à la 8e journée. Mmh. Donc il peut y avoir des rebondissements. D'autant plus que le calendrier, comme le disait Eric, il n'est pas très favorable, puisqu'ils jouent à l'extérieur le prochain match, ils vont se déplacer à Pau. Mais bon, beaucoup de joueurs ont été appelés par Fabien Bien-Galtier aussi pour préparer les tests de novembre. Donc les équipes vont aussi être privées de pas mal de bons éléments. Et notamment, je pense à la section paloise qui va être bien impactée par cette tournée de novembre. Donc ça peut peut-être laisser une ouverture à cette équipe de Perpignan qui n'a pas de joueurs sélectionnés par...
Malheureusement, l'optimisme ne fait pas tout dans le sport.
Oui.
Et ça fait trop longtemps pour ce club comme pour d'autres, dans d'autres disciplines également. Quand pendant des années on tire sur la corde, on se maintient avec grande difficulté, même si on est bien structuré, à un moment donné ça finit par peser sur toute la structure du club, sur tous les joueurs, même si de nouveaux joueurs sont arrivés. Dans ces cas-là, il faut que la mayonnaise prenne très vite, et un enchaînement de mauvais résultats tout de suite met le club au fond. Alors oui, bien sûr, l'incertitude, la glorieuse incertitude du sport, comme on la connaît tous, peut nous permettre d'y croire. Mais ça va être très compliqué.
Olivier Denieux, oui. J'ai envie de me tourner vers vous, entraîneur de l'équipe de France Handisport. Comment, quand on est entraîneur, on vit ces moments extrêmement compliqués? Alors, évidemment, l'athlète Handisport, le rugby, c'est pas la même chose, mais comment on le vit?
Quand tu es dans une spirale négative comme celle-là, il faut essayer de trouver un électrochoc pour justement essayer de booster ou de provoquer un... quelque chose au sein du collectif, parce que ce qu'il faudrait voir, c'est comment ça se passe au niveau du collectif. Est-ce que les joueurs vivent bien ce genre de situation? Ça m'étonnerait. Pour les raisons profondes, est-ce que les causes sont qu'il y a un mal-être au sein de cette équipe ou pas? Est-ce qu'ils sont en phase avec l'entraîneur? Est-ce que si on compare par rapport au foot, c'est pas dans l'ADN du rugby de changer d'entraîneur en cours de saison, alors qu'au football, il aurait déjà été lourdé depuis longtemps. Moi, je me souviens de la Coupe du Monde de rugby en Nouvelle-Zélande à l'époque où Lièvremont s'était un petit peu effacé. 2011, où il s'était effacé au profit de ses joueurs. Et c'est les joueurs qui avaient repris un petit peu les rênes. Est-ce que c'est ce qu'il faut? Je ne sais pas. Il y a différentes solutions à avoir. Mais en tout cas, il faut vraiment un électrochoc. Alors, est-ce que c'est virer l'entraîneur? Est-ce que c'est le président, l'environnement? Je ne sais pas du tout. Mais il faut un électrochoc. Ouais, il faut booster quelque chose.
Et en tant que... comme au-delà d'entraîneur, comment est-ce qu'on le vit? On rentre à la maison le soir, on pense qu'à
Là, je vois pas comment il peut ne pas penser à autre chose qu'à ça, quoi. C'est ta vie, c'est ton boulot, c'est ta passion, c'est quand t'es entraîneur d'une équipe pro, de toute façon, tu vis que pour ça, quoi.
Et au contraire, du foot où, en général, les joueurs, lorsque les clubs vont très mal, il y a toujours une partie des joueurs, les effectifs sont assez importants aussi, une partie des joueurs qui pensent à leur contrat et à leur contrat futur. Donc, ceux-là peuvent, à un moment donné, se désintéresser un peu du résultat du club et en sachant très bien qu'ils vont pouvoir passer à autre chose après. Dans le rugby, c'est beaucoup plus compliqué. Les joueurs sont beaucoup plus attachés aussi à leur club, même s'ils ne sont pas forcément originaires de la région de leur club. Donc, la mentalité est très différente, donc ça va être compliqué pour eux au jour le jour.
C'est l'environnement, ce que tu disais, l'environnement est terrible. J'ai écouté l'interview d'un joueur de Perpignan, je ne me rappelle plus son nom, mais quand on connaît la ferveur des Catalans et du public, et quand les joueurs se promènent en ville, tous les gens ne font que leur parler de ça, quoi. Donc il va chez le boulanger, il se fait à moitié insulter. Non, mais c'est ils le vivent très très mal, parce que les Catalans, ils sont pas tendres aussi avec leur équipe. Hein, donc et quand vous allez dans cette région-là, il y a des terrains de rugby, il y en a partout, quoi. C'est vraiment le pays du rugby. Et c'est vrai que ça rajoute aussi une pression négative sur le dos des joueurs, parce que chaque fois que vous sortez dans la rue ou que vous allez faire vos courses, on vous reparle encore de ce qui se passe, comment ça se passe mal. Et donc c'est vraiment compliqué. Ouais, c'est compliqué.
Olivier?
Je voulais dire simplement, là, il n'y a pas de mercato à Noël, comme au football. Non. C'est ça. Les joueurs, ils sont là jusqu'à la fin de la saison, quoi. Mmh. T'imagines, 0 point en 9 matchs. Ouais. C'est aujourd'hui pour s'en sortir.
Il n'y a pas suffisamment de clubs. Le microcosme est vraiment un microcosme. Ils ne peuvent pas se dire, c'est pas grave, je vais trouver un autre club, c'est pas grave. Non, il va falloir vivre avec celui-là. Et pourquoi pas, malheureusement, penser à une éventuelle descente avec ce club, même si après les budgets étant différents.
Comme tu disais, tout sera différent. Je connais bien comment ça se passe. Le gars, il est déjà en train de négocier son contrat avec une autre équipe. Hein, donc, ils vont s'en aller, les joueurs de foot. Mais au rugby, c'est pas possible. Et puis, de toute façon, c'est pas dans leur ADN. Le joueur de rugby, le maillot, c'est super important pour lui. Il va se bagarrer, il va se battre jusqu'à la fin. Et là, ça va pas être simple. Ils doivent être au fond du trou. Ils sont au fond du trou, déjà. Ils sont au fond du classement, mais moralement, dans les chaussettes, quoi.
Bruno Salvet, vous évoquiez les tests match qui vont arriver, là, au mois de novembre pour l'équipe de France. Oui. Est-ce que, quelque part, Perpignan peut pas peut-être profiter du fait qu'il y ait pas mal d'appelés
Peut-être. Le prochain match, ils se déplacent à Pau, donc ils jouent à l'extérieur, et puis ensuite, ils vont recevoir Montpellier à la maison. Donc, peut-être un déclic. Il faut... On n'a pas une boule de cristal, on ne peut pas savoir.
Bien sûr.
Mais c'est vrai que, on espère vraiment pour cette équipe qu'elle va se ressaisir et qu'elle va obtenir quelques résultats.
C'est que c'est maintenant. Parce que les matchs non plus, il ne reste pas 25 matchs. Et donc, s'il doit y avoir un sursaut, c'est dans les deux matchs que tu viens d'évoquer où ce sera trop tard.
Comme tu disais, Bruno, là, ils ont rencontré une équipe avec un buteur extraordinaire, mais le prochain coup, est-ce qu'au niveau, je sais pas, ils ont des GPS, est-ce qu'au niveau des analyses, où ils en sont, tu vois, c'est des trucs comme ça qui pourraient être intéressants à savoir. Est-ce qu'au niveau physique, ils sont prêts, pas prêts, il y a tout un tas d'analyses à faire. Mais bon, après, je pense que les mecs, ils sont dessus.
Après, les Montalbanais, ils ont joué chez eux, c'était la victoire ou la mort, entre guillemets, parce qu'eux, ils sont dans le même cas. C'était le match des deux derniers, des deux mal classés. Donc c'est vrai que quand tu joues à la maison devant ton public et tu es surmotivé, et Perpignan, ils passent pas très loin. Ils auraient pu gagner aussi ce match. Mais c'est la loi du sport, on va dire.
Un petit mot des tests qui se profilent là, au mois de novembre pour l'équipe de France.
Un gros morceau, avec double champion du monde, l'Afrique du Sud, le 8 novembre. Ouais. Donc, les Sud-Africains seront à Paris pour une revanche de ce fameux quart de finale de la dernière Coupe du Monde qui nous reste un peu en travers. Et ça va être un très très gros morceau. Quand on a vu les Sud-Africains au Rugby Championship, où ils ont marché sur tout le monde, et qui pratiquent maintenant un rugby vraiment de plus en plus complet, parce qu'ils ont toujours cette philosophie de guerrier et de ce jeu axial et à la limite brutal au niveau des avants, puisqu'ils ont toujours eu des packs avec des avants monstrueux, et ils ont maintenant des gazelles derrière là, qui vont à 2000 à l'heure et qui sont capables en plus de mettre le feu derrière. Donc ça va être une équipe très, très difficile à manœuvrer. Et ensuite, donc, le deuxième test, ce sera les Australiens. Australiens qui ont... J'ai vu le match, ils ont joué contre les Japonais en fin de semaine dernière. Ils se sont imposés un peu difficilement, mais les conditions n'étaient pas terribles. Donc les Australiens aussi, qui eux préparent leur Coupe du Monde en 2027. Oui. Donc avec un effectif aussi rajeuni, avec des nouveaux joueurs. Et ça se terminera par la réception aussi des Fidji. Donc trois gros morceaux pour l'équipe de France. Une équipe de France où les 42 joueurs qui ont été appelés par Galtier... c'est quand même un effectif assez rajeuni. Il y a des innovations. Je pense qu'il va lancer certains jeunes. Après, contre l'Afrique du Sud, il ne vaut pas trop s'amuser à lancer trop de jeunes. Mais je pense qu'il faut prendre ces matchs-là au sérieux et surtout essayer de faire bonne figure face à l'ogre sud-africain, parce que c'est vraiment le gros, gros morceau de cette tournée. Ouais.
Eric, ces tests match de novembre, comment vous les voyez? Et je vous poserai la même question.
On sait que les tests sont toujours des moments importants dans la vie du rugby international. Après, ça ne reste que des test match. Donc, l'important, c'est de savoir quels sont les enseignements qui vont être tirés pour ces matchs-là. Une victoire, une défaite, contre l'Afrique du Sud, c'est pas vraiment l'intérêt, même si évidemment on a envie que l'équipe de France gagne, bien sûr, qu'elle en a les moyens, évidemment. Mais je crois que Galtier et son staff, justement, comme tu disais, Bruno, ont rajeuni, ont fait venir des nouveaux aussi. Donc c'est une revue d'effectifs. Alors certes, contre la meilleure équipe du monde actuellement, donc il ne faudrait pas non plus y laisser trop de plumes, parce que s'il est bon d'en tirer des enseignements et prendre de la confiance, il est bon aussi de ne pas trop se faire matraquer. Mmh. Et ça peut très bien être le cas. Bon, après, on sait que la vérité de ce mois de novembre... Voilà, n'existera que jusqu'au 30 novembre, hein, et ensuite on pourra passer à autre chose. Voilà, c'est la réalité aussi.
Ouais, il y aura le tournoi à destination.
Voilà, non, mais ce qui compte, voilà, ce qui compte, c'est de préparer ce tournoi qui arrive. Voilà, ça, ce sera effectivement important, avec en ligne de mire la Coupe du Monde. Mais voilà, c'est tout ce qui compte. On n'a jamais été champion du monde. C'est notre objectif. Il faut que voilà, il faut qu'on y arrive à travers ces tests matchs justement, à travers ce tournoi des destinations, à arriver à voilà au Graal.
Mmh. Olivier, sur les tests de novembre.
Bah, de toute façon, ce genre de test match, c'est toujours à prendre avec précaution, parce qu'on ne sait jamais quels sont les objectifs de l'entraîneur, enfin de Fabien Galthié et de son staff. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que tu ne peux pas y aller avec une équipe de minots, quoi. Ouais. Tu vas contre l'Afrique du Sud, eux, ils vont pas venir. De toute façon, enfin, tu joues l'Australie, la Nouvelle-Zélande, enfin, ouais, et l'Afrique du Sud.
C'est toujours important. En France, hein.
Oui. Après, en effet, ce sont des objectifs intermédiaires qui vont amener absolument vers la Coupe du Monde. Je suis bien d'accord avec toi.
Mais ça ne vaut que si derrière il y a un résultat en Coupe du Monde, quoi. Mmh. Voilà.
On peut pas se permettre de prendre une tôle contre ces équipes-là, quoi. C'est vrai qu'après, tout de suite,
toujours un décalage sur ces tournées d'automne, parce que les équipes du Sud sont en fin de saison.
Ouais.
Et les équipes du Nord sont en début de saison, donc sont en pleine préparation. Et l'inverse se fait aussi au mois de juillet, mmh, où, rappelez-vous, Galthié avait envoyé une équipe, entre guillemets, bis.
Ouais, on en parlait la semaine dernière, ces problèmes de calendrier.
En Nouvelle-Zélande, parce que les joueurs jouent trop, quoi. Donc là, voilà, les Sud-Africains sortent de leur championnat, ils sortent du Rugby Championship. Donc l'équipe, elle est en pleine bourre, entre guillemets. Elle est rodée, ça fait plusieurs semaines, voire même plusieurs mois qui sont ensemble. Donc ça va être un gros morceau par rapport à l'équipe de France qui va se réunir 15 jours avant pour préparer ce match.
Oui, le regroupement commence
dès lundi. Quoi,
c'est vrai aussi que faire des essais, faire venir des nouveaux joueurs, ça a un intérêt très important. Mais à un moment donné, on voit les Sudaf aussi, les Néo-Zélandais, même s'ils font venir forcément à un moment donné de la jeunesse et font un turnover, il ne faut pas en faire trop non plus. Il faut quand même pouvoir s'appuyer sur des bases solides et à force de peut-être trop essayer, on peut à un moment donné peut-être perdre un peu le fil, même si on sait qu'avec les blessures, avec justement notre championnat, le top 14 qui est très exigeant, la Coupe d'Europe, donc c'est là où à un moment donné on se tire peut-être une balle dans le pied avec ce rugby français et européen qui est très attractif. C'est pour ça que beaucoup de joueurs étrangers, australiens, néo et sudaf viennent en France à un moment donné, mais à un moment donné aussi en équipe de France, on en paye peut-être un petit peu le prix.
Bon, on va conclure cette page rugby, on va ouvrir une page football avec la Ligue 1 et les Coupes européennes, hein, c'était la semaine dernière. Alors la Ligue 1, c'était ce week-end, je vous donne les résultats, la victoire de Nantes de Buzyn sur la pelouse du Paris FC, le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 3-0 à Brest, Monaco qui a battu Toulouse 1-0, Lens qui a battu Marseille 2-1, Lille qui s'est imposé 6-1 sur Metz, la victoire de Nice 2-1 à Rennes, Angers s'est imposé 2-0 sur Lorient, Le Havre a été emporté 1-0 sur la pelouse de Serres, et ce matin Lyon s'est imposé 2-1 face à Strasbourg. Olivier Deniau, oui. Le Paris Saint-Germain a repris la tête du classement général après l'avoir abandonné une petite journée au profit de l'Olympique de Marseille. Ça roule pour Paris, hein.
Ça roule, ils font tourner leur effectif surtout, j'ai l'impression, puis ils choisissent leur match de façon à être efficace, à mon avis, au mois de mars, avril, quand la phase qualificative de la Ligue des Champions sera terminée. Parce que, bon, je ne veux pas dire que le championnat, de toute façon, il est joué d'avance pour Paris, mais enfin, un petit peu quand même si Marseille, Lyon et d'autres équipes peuvent venir jouer les troubles faites. Mais je pense qu'ils ont l'effectif pour gagner le championnat, même s'ils ont perdu à Marseille, qu'ils ont fait quelques matchs nuls après, quoi.
Eric,
ils ont récupéré une bonne partie de leurs blessés et on voit évidemment tout de suite la différence. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Ils ont beau avoir l'un des meilleurs bancs, si ce n'est évidemment le meilleur banc du championnat, pour autant le banc ne fait pas des titulaires. Hein. On peut pas, voilà, c'est comme ça. Et quand les titulaires reviennent, quand une équipe de Paris comme celle-là a atteint un tel niveau d'excellence dans tous les compartiments du jeu, et bon, évidemment, on l'a vu la saison dernière avec sa démonstration en Champions League, là, on savait très bien que le redémarrage serait, si ce n'est compliqué, un peu hésitant. Ça a été le cas. Ils ont eu quelques blessés, malheureusement, presque obligatoires, justement, avec l'accumulation des matchs. Il y a eu très peu de repos pour ces joueurs-là. Donc voilà, ça y est, les joueurs reviennent. On a vu sur les deux derniers matchs de Ligue des Champions et puis de championnat, bon, qu'ils ont retrouvé absolument leur niveau. Voilà, donc ils ont repris la tête de la Ligue 1, ils ne lâcheront plus maintenant, ça ne fait pas l'ombre d'une discussion. Ils sont véritablement très forts, on ne parle pas d'une équipe qui est plus forte que les autres, on parle d'un club dominant. Voilà, et aujourd'hui, quand on regarde un match de Paris, c'est vraiment très impressionnant. Ça me gêne forcément de le dire, parce qu'en tant que bon supporter de l'OM, ça me fait un peu mal au...
Cette semaine,
voilà,
hein,
le mot, je ne prononcerai pas à la radio. Mais là, il faut reconnaître que voilà, c'est aujourd'hui le meilleur club du monde. Et c'est pas seulement... Alors, rien ne dit qu'ils gagneront dans la foulée une deuxième Coupe d'Europe, hein, on est bien d'accord. Mais ils sont vraiment dominants et très très forts. Donc c'est fini.
Bruno, toi, sur le football, tu suis un
Oui,
petit
c'est
peu
ouais. L'accumulation des matchs là, que je quoi, comme disait Olivier, quoi. C'est on est pareil au niveau du rugby, on est dans la gestion de l'effectif pour pouvoir prioriser les échéances et essayer d'amener le meilleur collectif pour être prêt pour les échéances. En plus, Paris, ils ont avec la saison dernière, après ils ont enchaîné sur la Coupe du Monde des clubs, ouais. Donc. Les gars, quoi, en football, c'est quoi? C'est deux matchs, trois matchs par semaine, c'est ça?
Deux à trois matchs. Ouais. Oui, ça arrive, trois matchs, oui, mais deux sûrs. Oui.
Là, c'est deux maintenant.
Les joueurs savent maintenant que ça fonctionne.
Imaginez un peu les contraintes que ça représente au niveau du physique, du mental, physiologique. Et il faut vraiment là-dessus avoir un groupe solide et avoir une qualité de manager et de faire du bon coaching pour faire tourner l'effectif. Et je pense que là-dessus, l'entraîneur parisien...
On l'a vu avec les jeunes qui ont été intégrés un petit peu en fin d'année dernière et cette année beaucoup, justement, avec les blessés. Et on voit que même si le niveau est forcément un petit peu moins haut, c'est tout à fait normal, mais on voit qu'il s'intègre tout de suite. Et on voit justement que le travail qui est fait en amont est hyper, hyper professionnel et hyper bon, puisque chaque joueur qui s'intègre dans l'équipe joue, pratique le même football. Voilà, et ça c'est justement ce qui fait les très grands clubs.
On appelle ça le référentiel commun, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir le même système de jeu, que ce soit des cadets jusqu'à l'équipe senior. Donc c'est ce qui se passe aussi dans les équipes de rugby au Stade Toulousain.
Pour ça, il faut une qualité individuelle, technique.
Et puis, il faut avoir une philosophie du jeu, il faut mettre en place des systèmes de jeu et donc un plan de jeu qui correspond à son effectif et puis surtout qui est pratiqué depuis les jeunes.
C'est ce qu'a imposé Luis Enrique quand il arrive, et du coup c'est vrai que comme tu le disais, quand il impose quand il fait rentrer un jeune, alors c'est facile de s'intégrer dans une équipe comme Paris à mon avis, hein. Mais surtout que les jeunes, ils sont explosifs, ils sont rapides et ils ont le schéma tactique dans la tête déjà.
Il y a un très bon groupe, une très bonne vie dans le groupe. Aujourd'hui la structure est saine. On sait que les problèmes qui existaient, mais c'est pas oui, on peut le dire, on peut le dire. Alors c'est facile après coup de dire, mais on savait très bien que quand ce genre de joueur justement laisse un peu la place aux autres. Alors rien ne disait que ça allait marcher aussi bien que ça. Là, pour le coup, celui qui dirait le contraire, j'aurais un peu de mal à le croire. Là, on peut toujours essayer de faire avec des couleuvres, mais non. Mais oui, c'était évident que des choses allaient se passer.
Mais si on va marquer la mi-temps de une semaine sportmidable, petite page de pub, on reviendra au football juste après. Cette fois-ci, on s'intéressera aux Coupes européennes, notamment avec la Ligue des Champions. À tout de suite.
RRB, la pub. Ce sont les beaux jours. Profitez de votre extérieur à petit prix chez Jardiland. Du 20 octobre au 9 novembre, découvrez le salon de jardin Miami 8 places à 119 990 francs seulement au lieu de 149 990 francs. Jardiland de Nouvelle-Calédonie, vos économies commencent ici. Jardiland. Cultivez votre bien-être.
Préparez votre cri le plus terrifiant et enfilez le costume le plus diabolique. Le vendredi 31 octobre, la ville du Mont d'Or transforme le parc Paul Bloch à Plume en un royaume d'épouvante horrible. terriblement amusant pour petits et grands. Frissons garantis. Au programme, le terrifiant château de l'horreur. Participez au concours de déguisement et ne manquez sous aucun prétexte le zombie show spectaculaire. Et sans oublier, la chasse aux bonbons. Ne ratez pas la soirée d'Halloween 2025 du Mont d'Or. Vendredi 31 octobre, de 16h à 21h, au parc Paul Bloch à Ploum. Renseignements au 41 90 90.
Oh bah, c'est quoi toute cette neige? Tu prépares les décos de Noël? Ah,
c'est pas de la neige, c'est de la farine. J'essaie de faire de la pâte à pizza, mais c'est galère.
Pourquoi tu t'embêtes? À la Maison du Pain jusqu'au 31 octobre, pour l'achat d'une plaque de pizza à 3 990 francs, la deuxième est à moins 50%. Il y a Rennes, trois fromages, Montagnard, pepperoni et chèvre pesto.
Ok, je fonce.
Hep, la Reine des Neiges, là. Tu nettoies tout ça avant.
Oh, mais non.
Voir conditions en magasin. Le 4, 186 rue Jacques Yécaoué. Faites vos courses autrement.
RRB, 16h, 19h, le tout info.
Il est 17h30, c'est l'heure de retrouver Lionel Sabot et toutes ses invités pour la suite de votre semaine sportmidable.
Une semaine sportmidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Une semaine sportmidable avec Bruno Salvé, Olivier Deniaud et Eric Figuer. On va parler, on va continuer de parler de football avec les Coupes européennes, la Ligue des champions, bilan des clubs français engagés cette semaine, un peu mi-figue, mi-raisin. Alors il y a la très belle victoire du Paris Saint-Germain, 7 buts à 2 sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Monaco et Tottenham ont fait match nul 0-0, c'était au stade Louis II. Et puis le Sporting Portugal s'est imposé 2 buts à 1 sur l'Olympique de Marseille. Olivier Deniaud, 7-2 pour le PSG au Bayer Leverkusen.
Bah ils ont déroulé, écoute, voilà, si tu veux. C'est un match où tout a souri à l'équipe du PSG. Ils ont pris le match avec sérieux, le sérieux qu'il faut. Et je dirais que c'est une répétition pour la suite. Je dirais, il y a eu 3 matchs, 3 victoires. Ils ont pris la tête de cette Ligue des Champions. J'espère que ça va continuer, parce que je te rappelle que l'an dernier, ils étaient mal partis. Ils se sont qualifiés de justesse ric-rac dans le dernier match, ouais, hein, il me semble. Et puis, finalement, ils ont été au bout, quoi.
Avec un match marqué par le retour d'Ousmane Dembélé, notamment. Il arrive, il rentre, il joue 6 minutes, il marque un but. Il n'est pas
dans
pour rien, pour ceux qui pourraient en douter.
Non, mais je te dis, c'est quand je te disais tout à l'heure que Paris choisissait ses matchs, c'est un petit peu l'illustration de ce que je disais tout à l'heure, quoi, de mes propos, parce que ils avaient fait match nul juste avant en championnat et ils vont gagner donc en Ligue des Champions.
Eric,
ils ont marqué un grand coup. Alors évidemment, c'est pas décisif, hein, forcément, mais on parlait juste avant du niveau de Paris qui a récupéré ses blessés et là, c'est le match. Faut pas minimiser le 3-0 à Brest, hein, c'est quand même pas rien. Mais le match précédent, 7-2 en Allemagne, à Leverkusen, ouais, qui est quand même une place forte aujourd'hui du championnat allemand. Tu as raison, quand on gagne, quand on marque 7 buts à l'extérieur en Allemagne, il faut que toutes les planètes s'alignent un petit peu, mais pas seulement. Je veux dire, là, c'est vraiment une démonstration de force, elle l'a fait, comme Paris l'a fait en finale de la Champions League l'année dernière, mais c'est une démonstration de force. C'est là où on voit que là, on ne parle plus du même club, on ne parle plus de la même équipe, on ne parle plus du même niveau, c'est vraiment autre chose. Voilà. Alors, ça ne fait pas obligatoirement une victoire finale à la fin. Mais pour le coup, ça montre bien quel est le niveau aujourd'hui de Paris. Après, pour les autres clubs, ça montre aussi le niveau de ces autres clubs actuellement. Ce sont des clubs qui sont capables d'obtenir de bons résultats. On voit qu'il y a quelque chose, mais ce quelque chose est encore beaucoup trop fragile pour espérer de grandes victoires.
Et je voudrais qu'on revienne, et c'est encore une fois pas pour enfoncer le clou avec vous, Eric, mais sur la défaite de l'Olympique de Marseille cette semaine au Sporting Portugal. Les Marseillais menaient 1-0. Ils sont battus de 2-1. Il y a eu des critiques extrêmement dures de l'arbitrage, notamment par Pierre-Emerick Aubameyang à la fin du match, qui était fou furieux contre l'arbitre.
C'est sûr que l'arbitrage dans le football est un vrai problème. Voilà, c'est pas un problème en général dans beaucoup d'autres disciplines, même s'il arrive qu'il y ait des choses à dire dans d'autres disciplines, mais dans le football, c'est vraiment un problème. Ça ne remet pas en cause, évidemment, l'engagement des arbitres de quelque niveau que ce soit, leur envie de bien faire, c'est certain, mais aujourd'hui, ça va, il faut le dire, beaucoup trop vite. le niveau, la vitesse à laquelle les joueurs jouent aujourd'hui, l'intensité avec laquelle les matchs se déroulent, c'est proprement hallucinant. Quand on voit le niveau il y a 10 ans, il y a 20 ans, on ne parle plus du tout de la même chose. Mmh. Et l'arbitrage aujourd'hui a souvent, avec en plus la VAR, l'arbitrage vidéo, c'est vraiment problématique. Et on se rend compte que quand il y a autant de matchs maintenant comme ça, et ben l'arbitrage, il y a de très très bons arbitres en France, en Europe, bien évidemment, dans le monde. Mais le niveau, il est probablement pas assez homogène. Alors en fait, Marseille a perdu parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. C'est aussi simple que ça. Mais pour autant, il y a une réalité aussi. Le joueur Emerson se fait expulser. On pourrait dire logiquement, mais sauf que le premier carton jaune, en fait, est trop sévère. Mmh. Alors oui, on va dire, les Marseillais, ils se plaignent, ils pleurnichent, etc. Non, ils ont tout simplement perdu le match qu'ils auraient dû gagner, voilà, puisqu'ils avaient tout à fait le niveau, ils mènent 1-0, ils dominent plutôt globalement le match. Et puis, un fait de jeu, voilà, les joueurs un peu sérieux derrière, font pas tout à fait le travail, s'énervent très facilement, et puis à l'arrivée, on perd 2-1, quoi.
Olivier.
Mais c'est, oui, je dirais, c'est aussi le football qui est porteur de ça, parce que souvent ça se joue à un but décisif. Enfin, quand c'est des matchs qui se terminent à 1-0 ou 2-1, c'est un but décisif et une action décisive. Et si c'est une faute d'arbitrage qui provoque ce but, tout de suite, forcément, ça va créer une polémique, alors que ça soit en rugby ou au handball ou au basket. Bon, dans la mesure où il y a davantage de points en jeu, peut-être que si l'arbitre il fait une erreur, ça passera
on
un peu plus inaperçu.
On n'oublie pas qu'un match dure 90 minutes et maintenant aujourd'hui beaucoup plus, 95 voire plus.
Je veux pas défendre les arbitres, mais c'est vrai que les clubs ont largement, ça peut provoquer.
Les joueurs et les clubs ont largement le temps de faire ce qu'ils ont à faire. Il y a une opposition, il y a les deux équipes qui veulent gagner forcément. Il y en a qu'une à la fin, enfin sauf quand on arrive à un match nul, bien sûr. Mais l'équipe Marseille avait la place de faire ce qu'elle avait à faire, c'est-à-dire
tout à fait. Ou de pas faire les erreurs qu'ils ont fait pour prendre
d'accord.
les buts.
C'est aussi des erreurs.
Et en même temps, la VAR coupe les matchs, donc il faut se réapprendre à jouer autrement et avoir des matchs qui durent beaucoup plus longtemps qu'avant. Sauf que je sais pas si les sanctions peuvent être rétroactives comme c'est le cas au rugby. Des fois, il y a des suspensions parce que la vidéo. Ça changera pas le résultat, mais peut-être que les joueurs hésiteront à faire les fautes, sachant qu'ils vont se faire gauler par la vidéo plus tard.
On pourrait faire une émission juste là-dessus.
On peut faire une émission. Même plusieurs.
On vous invitera la semaine prochaine, on pourrait faire. La VAR, on en parle, football, elle est très critiquée. La VAR, elle existe au rugby aussi, Bruno. Pourquoi ça marche chez les rugbymen et pourquoi ça crée problème chez les footballeurs? C'est encore une fois une question d'état d'esprit.
Il y a beaucoup d'explications.
Parce que, tout simplement, le rugbyman sait qu'il ne doit pas parler à l'arbitre, il ne fera pas changer d'avis. Et c'était Lucien Mias qui disait l'arbitre fait partie du jeu comme le vent et la pluie. Donc c'est-à-dire que l'arbitre peut se tromper, il se trompe. Seul le capitaine a le droit d'aller lui poser des questions, mais on ne voit pas ces amas de joueurs tels qu'on peut le voir en
football. Mais en football aussi, normalement, c'est que le capitaine qui peut...
Pardon ?
En football aussi, il n'y a que le capitaine, normalement, qui peut aller.
Oui, normalement, voilà.
Normalement,
c'est ça.
Donc c'est une question d'état d'esprit,
c'est ça. Mais c'est vrai que... D'ailleurs, moi, j'ai trouvé que le football a vraiment mis du temps à se mettre à la vidéo, alors que au rugby, ça... Il y avait tellement d'actions litigieuses que c'était devenu indispensable. Mais c'est vrai qu'aussi, ça coupe le match, les matchs durent beaucoup plus longtemps. Mais quand il y a des actions qui sont litigieuses, il ne faut pas hésiter à faire la...
Mais si le résultat de la VAR est indiscutable et rend les choses beaucoup plus lisibles, c'est parfait.
Oui.
Sauf que malheureusement, on se rend bien compte que malgré la VAR...
Donc il faudrait une VAR de la VAR, en fait, c'est ce que vous êtes en train de nous dire.
Il faudrait des gens... c'est toujours facile de dire, on va dire, mais qui il est pour dire ça? Mais non, il faut juste des gens compétents. À un moment donné, et compétent, pas compétent une fois de temps en temps.
Mais oui, mais qui êtes-vous, monsieur?
Mais en tous les cas, c'est la réalité. Alors après, c'est compliqué, puisqu'il y a tellement de matchs au football, il y a beaucoup plus de matchs dans tous les championnats européens, les Coupes d'Europe, il y a tellement de matchs à jouer, donc il faut un nombre d'arbitres incroyable aujourd'hui, les arbitres qui sont sur le pré, et puis les arbitres à la VAR, et puis c'est juste improbable, avec en plus une lecture qui n'est pas toujours la même, qui est un peu différente de l'un à l'autre, et Après, se rajoute effectivement, aujourd'hui on voit, enfin aujourd'hui non, pas aujourd'hui, dans le rugby, il y a un respect total entre les joueurs, et pourtant c'est pas faute de se maillotcher quand même, mais il y a un respect total, il y a un respect envers les arbitres, les arbitres expliquent aussi pourquoi ils prennent
les
décisions.
Les arbitres parlent beaucoup.
Les règles sont un peu différentes, sont peut-être un petit peu plus lisibles, même si elles évoluent avec le temps. Au foot, c'est très compliqué, c'est tout ce mélange.
La différence, ouais, la différence entre le foot et le rugby, c'est que l'arbitre au rugby, il est tout le temps obligé de suivre le ballon, parce qu'il doit juger la ligne de hors-jeu.
Bien
sûr. Il est toujours très proche du ballon, donc ça lui permet d'échanger. On les entend énormément parler avec les joueurs. Alors que c'est vrai que au football, voilà, l'arbitre, il peut rester un peu dans le rond central, et puis ça joue. Donc au rugby, c'est totalement différent. Et surtout, il y a ce il y a le troisième arbitre qui, lui, signale maintenant directement à l'arbitre central. Et ils arbitrent aussi, déjà sur le terrain, ils arbitrent à trois. Quoi. C'est-à-dire que l'arbitre central, s'il ne voit pas une faute, ce sont les arbitres de touche ou les arbitres assistants, parce que ce ne sont plus des arbitres de touche, ce sont des arbitres assistants qui, eux, communiquent directement avec l'arbitre central en lui disant, voilà, il y a eu un en avant, il y a eu une faute, et ainsi de suite. Donc l'arbitre arrête le jeu et fait totalement confiance à ses arbitres assistants. Plus l'arbitre vidéo qui, lui, en plus, demande les plans et plusieurs plans, les ralentis, pour pouvoir bien juger de la faute.
Mais les règles sont plus simples à interpréter quand même, malgré tout, au rugby, même si des fois, pour les néophytes...
Les règles sont plus simples au rugby.
Lorsque l'arbitre prend sa décision et lorsqu'il l'explique, effectivement, c'est beaucoup plus simple.
Ah, oui.
Oui, les règles, évidemment, sont difficiles, mais elles sont beaucoup plus simples à expliquer, ce qui n'est pas du tout le cas au foot. D'ailleurs, on le voit très bien, ces histoires de mains dans la surface, main volontaire, involontaire,
collé au corps, décollé,
face corporelle, etc. C'est tellement... donc on ne peut pas sortir...
Olivier
Dognon.
Je crois aussi qu'il y a une différence, c'est que les joueurs de rugby, ils connaissent les règles du rugby, alors que certains joueurs de foot, même professionnels...
Les footeux, ils font semblant de ne pas les connaître.
Ah non, des fois, ils ne les connaissent pas. Hein. Ou en tout cas, les journalistes, en tout cas... Enfin,
bah voilà, ça va être notre faute.
Les commentateurs télé. Ou les consultants. Qui sont des anciens joueurs, qui te sortent des inepties à la télé.
Ce qui est toujours d'ailleurs assez incroyable, quand on regarde un match, d'ailleurs, on parle de foot aussi, mais quand on regarde un match, on est téléspectateur, et on voit tout de suite la faute, dès la première image, le premier ralenti, et on voit ces commentateurs, ces spécialistes qui sont en train de se demander ce qui vient de se passer. Mmh. Et j'ai envie de leur dire, mais vous regardez le match ça se voit, quoi.
Ouais. Ouais, malheureusement, c'est comme ça. Ouais.
On a le temps de parler 2 minutes.
Les golf volants, ça n'existe plus.
Les golf volants, c'était à l'école.
C'était Olmeta, ça.
C'était Olmeta.
Les Olmeta qui sortent.
C'est Olmeta. C'est Zika, c'est Olmeta.
2 minutes, parler de Formule 1. Ce matin, il y avait le Grand Prix du Brésil, victoire de Lando Norris devant Charles Leclerc, Max Verstappen. C'est ce qui marque ce Grand Prix, c'est que Norris reprend la tête du championnat du monde des pilotes
pour un point.
Et chez les constructeurs, Ferrari repasse devant Mercedes pour un point également. La fin de saison s'annonce juste passionnante.
Pour une fois,
oui.
Voilà, on est très contents. La saison dernière, ça a un petit peu bougé avec le titre constructeur de McLaren. Oui. C'était très bien. Aujourd'hui, ça se bat au niveau des pilotes pour le titre. Ils sont trois pour un sacre. Donc c'est très bien. Ça met enfin un peu d'incertitude, un peu d'ambiance. C'est très bien et on a hâte de voir la prochaine course.
Bruno.
Oui, non, j'ai regardé la.
Pas mieux.
J'ai vu le départ. C'est impressionnant la trajectoire qui est prise à l'extérieur.
Il passe dans l'air. Impressionnant, c'est 4 voitures de front à la fin de la première ligne droite.
Tout le monde n'est pas passé.
Ils arrivent comme des fusées, en plus sur le gazon. Quoi. Ouais. Même maintenant, ils sont plus sur la piste. Ils vont dans l'herbe. Donc.
Olivier Dognon, sur la fin.
Moi aussi, ça m'a impressionné le départ, tel point qu'hier soir, j'ai voulu faire pareil dans un train. J'ai crevé ma roue avant droite en prenant le trottoir. Bon, maintenant, je vais faire gaffe. Mais je suis content pour Ferrari, parce que du coup, ma femme étant italienne,
Forza Italia.
Ça remonte un peu, je vais expliquer. Hier, j'ai regardé, j'ai voulu faire pareil, et puis voilà. Non. Bref, ce matin, j'ai changé la roue.
Mais si on termine par vos coups de cœur, coups de griffe, ce que vous voulez, Bruno.
Coup de cœur par rapport au match de ce matin opposant Toulouse à Toulon, une très belle prestation de Romain Ntamack qui a retrouvé toutes ses qualités suite à ses blessures et qui a livré un match vraiment c'était vraiment le chef d'orchestre de cette attaque toulousaine et donc voilà un petit coup de cœur pour Romain Ntamack qui affrontera les Springboks sans doute puisque Mathieu Jalibert est blessé.
Olivier.
Alors vite fait, un coup de cœur pour les sportifs de haut niveau qui étaient notamment en Inde au dernier championnat du monde et avec leurs entraîneurs et tout. Bon, bah, José Marquez, Eric Rueda, et qui ont en même temps animé
Olivier
les...
Olivier de Niveau.
Non, oui, mais bon, moi je me mets pas dedans, mais bon, même si oui, d'accord. Et les entraîneurs ont organisé et participé aux interclubs la semaine dernière à la fois. Donc, même Pierre Fermant qui a gagné le tennis de table, pour te dire. Et le coup de griffe, c'est pour cette ligue de d'athlétisme des dopés. Il y a Mamadou, Mouamadou Fall, là, le sprinter français, qui va participer. Et je trouve ça inadmissible. Voilà. Et je me pose des questions sur ses performances passées à ce sprinter. Voilà.
Eric, sans vouloir faire de la démagogie, un grand bravo et un grand merci à tous les bénévoles de Nouvelle-Calédonie qui œuvrent. On a parlé, tu viens de parler des entraîneurs. Les bénévoles, sans qui le sport ne serait rien, ne serait rien du tout. Et sans qui, justement, tous ces athlètes qui brillent à l'étranger depuis la Nouvelle-Calédonie ne seraient rien aussi, parce que si à un moment donné, ils sont très bien entourés par des professionnels, leur point de départ, c'est les bénévoles. Et puis, très rapidement, on a le plus grand basketteur bientôt de tous les temps. Voilà, on a une chance incroyable d'avoir un Français, Wembanyama, qui est en train de prendre son envol du haut de ses 2m24. Et là, 3 matchs, 3 victoires, avec des stats déjà très, 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 très sérieuses. Et là, vraiment, regardez ça, parce que j'en ai un petit peu des frissons. Ça va être les années à venir vont être exceptionnelles.
Et je crois qu'il a pris 2 cm pendant son arrêt. Là,
parce que j'ai quelques kilos de muscles.
Il a grandi.
Exact.
Le mec, il fait déjà 2m.
Où va-t-il aller?
Il n'a pas fini sa croissance.
2m20, il fait 2m24 maintenant.
Mais quand on le voit.
On va se faire disputer par Jean-François Bonin, je vous assure. C'est pas que je vais vous couper, je resterai bien avec vous, mais on en reparle la semaine prochaine avec grand plaisir. La fin de cette semaine sportive table, merci d'avoir été avec nous.